Salut à vous, chers auditeurs! Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts! Et oui, on est encore là, mardi 6 septembre! Bonne fête à tous les Bertrands! Et puis à mes acolytes! Une bonne fête quand même, non? Salut à toi, Eric!
C'est pas la Saint-Étienne. Salut Marco, salut Olivier, salut à tous!
Salut, très content d'être là. Salut. Avec vous et on est reparti pour une autre saison, avec plaisir.
Ouais, salut à toi Olivier. 7e journée de championnat de Ligue 2 avec un déplacement à Pau et le score final est de 2-2. Donc dans cette émission, on va revenir longuement sur cette rencontre dans le Béarn. On va analyser ça. On ne s'est pas vu depuis plus de 3 mois. On va revenir sur quand même l'actualité des Verts. Eric va présenter tout ça au début d'émission. On fera une page Haute-Loire relativement courte, mais quand même, on présentera les choses. On terminera toujours par les fameux coups de cœur, coups de tête. Et bien sûr, on passera des morceaux musicaux, bref, du rock'n'foot comme on les aime. C'est notre 12e année. Voilà, toujours fidèle supporter des Verts. C'est la moindre des choses. On va jusqu'au bout. On expliquera
partout, toujours.
Partout, toujours. Voilà, bonne émission à vous et c'est parti sans jingle, Eric. Nous t'écoutons.
Oui, on s'est quitté au lendemain du cataclysme provoqué par la descente des Verts en Ligue 2 suite à la défaite au tir au but à domicile face à la JOCR, qui a engendré des débordements inadmissibles de la part de pseudo-supporters. Alors après la relégation, un second coup près est tombé. Avec de lourdes sanctions collectives, l'ASS a écopé d'un retrait de 3 points au classement avec la menace de 3 supplémentaires en cas de nouveaux graves incidents et de 6 matchs à huis clos dont 2 avec sursis. Alors, durant l'intersaison, on a assisté, comme on pouvait s'y attendre, à une véritable saignée au sein de l'effectif. On a enregistré, rendez-vous compte, plus de 30 départs. Le coach Duprat et les joueurs Bernardoni, Mangala, Kolodziejczak, Trauco, Falaisako, Dius, Boudbouz, Kazri, Amouma, Crivelli, Tube, Bakarisako, Nordin, tous en fin de contrat, ont plié bagage, tout comme Nianion et les jeunes Ghezali, Sidibé, Benkedim, Emar, Liort, Leleu et Petit. Chibouaboua, Gournadouat, Youssouf, Bonga, Moukoudi et Aouchiche ont également quitté la SS, tandis que Neyou, Camara et Rivera ont été prêtés du côté de Leganés, de Brest et du Puy. Au rayon des arrivées, on a noté le retour en tant qu'entraîneur principal de Laurent Batless, qui a rapatrié dans le Forêt 2 joueurs formés au club mais qui avaient dû partir pour décrocher un contrat professionnel. Le milieu de terrain de Troyes, Dylan Chambaud, et le défenseur de Lorient, Léo Petro. 3 joueurs prêtés ont également fait leur retour, Cedri Palencia, Charles Abbey et Jean-Philippe Crasso. Dans chaque ligne sont apparues de nouvelles têtes, dans les buts le Lorientais Mathieu Derrière. Derrière, le Troyen Jimmy Giraudon et le Nîmois Anthony Briançon. Au milieu, le Belgo-Marocain Benjamin Bouchouari, en provenance de Roda. Le Lorientais Thomas Monconduit. En position offensive, Mathieu Cafaro, prêté par le Standard de Liège. Le Palois Victor Lobry, Lenny Painter, qui appartenait à l'OL. Et enfin, aux avant-postes, le Sénégalais de Karabag, Ibrahima Wadji. Pour ce qui est des résultats, après une défaite initiale 1-2 à Dijon, la SS a concédé le nul 1 partout contre Nîmes, puis 2-2 sur le terrain de Quevilly-Rouen. Réduite à 8, elle a ensuite été écrasée à domicile par Le Havre 0-6, subissant la pire humiliation de son histoire. Après un nouveau 2-2 à Valenciennes, où elle s'est faite rejoindre sur pénalty dans le temps additionnel, elle s'est vengée face au Bastier qu'elle a corrigé 5-0 grâce à un quadruplé de Crasso. Après ce premier mois catastrophique, elle se retrouvait dernière ex aequo avec Pau, adversaire chez lequel elle se déplaçait hier soir.
Merci Eric, ce fut précis avec tous ces noms propres. Effectivement, ça a beaucoup bougé pendant cet été côté Saint-Étienne. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses avec cette descente en Ligue 2. On attendait une vente du club qu'on attend toujours depuis des années et des années. Ah, il faut être patient, mais bon, c'est comme ça. Moi, je vais revenir tout simplement sur le match du week-end.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end.
alors qu'il semblait avoir repris du poil de la bête en infligeant une correction à Bastia, comme l'a mentionné Eric, Saint-Etienne n'a pu attraper que le point du match nul à Pau lors de la 7e journée de Ligue 2. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score à la demi-heure de jeu sur la vraie première occasion du match. C'est Mouton qui a envoyé un bel enroulé dans la lucarne d'Oliero en profitant d'un magnifique service en talonnade de Crasso. Un Crasso qui n'était pas loin du break dans le temps additionnel de la première période, alors qu'à l'autre bout du terrain, c'est Yatara qui avait envoyé une tête légèrement au-dessus du but de Green. Malheureusement pour Saint-Té, la seconde mi-temps a longtemps ressemblé à un cauchemar, car si Yatara a de nouveau gâché une balle d'égalisation, Green s'est fait expulser pour un accrochage sur Kofi, alors qu'il restait une demi-heure de jeu. Et sur le coup franc qui a suivi, c'est Seyvé, l'ancien Stéphanois, qui a trouvé le chemin défilé sur donc, ce joli coup franc. Avant de faire de même, 10 minutes plus tard, plombant son ancien club, voilà. Finalement, les locaux ont raté le coche avec un poteau de Gomis dans les dernières minutes de la rencontre. Et ils ont raté le coche et ils ont laissé les Stéphanois revenir sur la fin grâce à un pénalty de Pintor sanctionnant une faute de Kouassi. Voilà, n'empêche, les deux équipes squattent toujours les deux dernières places de ce classement. J'ai oublié de mentionner la composition de Batless, donc c'était plutôt un 5-2-3 avec Green dans les buts, Palencia, Bakayoko, Giraudon, Briançon, Masson. En milieu de terrain, Bouchouari, Mouton et Chambaud. Et devant, Crasso et Cafaro. C'était à peu près le même 11 de départ face à Bastia. Donc voilà, il prend l'adage Batless. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on n'a pas assisté du tout à la même rencontre. Olivier ?
Ah non, c'est clair. Hein. C'était la confirmation qui était attendue. On pensait que les Verts avaient trouvé des couleurs. Et en fait, on se rend compte, on s'y attendait un peu, hein, à l'extérieur, face à un mal classé. Les Palois n'allaient pas forcément se livrer comme les Bastiais, donc ça n'allait pas donner le même jeu, la même prestation. Mais disons qu'on est un peu déçus parce qu'on est tellement loin au classement qu'on attendait mieux de ces Verts face à l'avant-dernier, quoi, finalement. Finalement, ils jouaient contre la lanterne rouge parce que si tu enlèves les points de suspension, Pau est dernier de ce championnat.
Ils étaient derniers de toute façon.
Ils étaient derniers. Hein,
oui, c'est comme nous, avec Ogulavérage, tu veux dire.
Ouais. Ouais, moi j'ai assisté à une rencontre avec un peu un traquenard dans le Béarn, hein, avec ce bloc bas palois. Ils attendaient les Verts et on assistait à un jeu relativement brouillon pendant 90 minutes avec des petits tas qui se faisaient par-ci par-là. Et l'ouverture du score stéphanoise vient simplement d'une talonnade magique de Crasso qui décale Mouton. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose et on peut peut-être revenir sur le schéma tactique de Batless. Est-ce qu'il convenait vraiment à ce genre d'adversaire qui est plutôt attentiste et un bloc bas et puis très physique, hein, parce qu'on a assisté à un combat très physique. Je pense que c'est le plus physique depuis le début de ce championnat de Ligue de Bect. Mais ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais match moyen au final.
C'est quoi la question?
Match moyen, le fait que... Est-ce que Batless n'aurait pas pu trouver d'autres solutions dans son schéma tactique face à un bloc bas comme celui-ci?
Donc ça voudrait dire s'adapter à l'adversaire. Après, je pense que c'est sûr que par rapport à la prestation face à Bastia, il a voulu récompenser ses hommes et reconduire le même 11 de départ, ce qui peut aussi se comprendre. Moi, par exemple, ce que je n'ai pas compris, ça reste une sacrée contre-performance en ce qui me concerne, même si on a fini par s'arracher à 10 pour prendre le point du match nul. Mais c'est que les Verts aient baissé de pied comme ça en seconde période. Et puis pour le schéma tactique, on a laissé beaucoup de latitude, je trouve, à un joueur qui s'appelle D'Almeida, qu'on a beaucoup vu dans cette équipe paloise. Et encore, il manquait Nguyen, le fameux Messi vietnamien qu'on n'a pas vu. Mm-hmm. J'avais vu cet été. C'est un sacré joueur, n'empêche. Il a pas été aligné hier, heureusement pour nous. Mais bon, ce joueur-là, je trouvais qu'on l'a laissé beaucoup de latitude au milieu de terrain. Il a fait un petit peu la pluie et le beau temps. En plus de CV, qui a joué en position plus reculée que celle qu'il occupait à Saint-Etienne. Mais,
ouais. Après, il y a les faits de match qui sont relativement importants parce qu'une fois de plus, un joueur expulsé, bah oui. Et à chaque fois qu'on expulse un Vert, et ben ça se passe pas très bien pour eux, quoi. Donc, ça joue sur un, une fois de plus, sur un fait de jeu. Et...
C'était la double peine en plus. Après, parce qu'on prend le but juste derrière.
On prend le but. Bon, moi, je trouve super sévère le rouge sur Green.
Non.
Surtout quand tu revois les images.
Il n'y a rien à faire là et à surtout tendre le pied, quoi. Enfin, il a rien à faire là. Soit il y va, il est sûr d'avoir la balle, soit il y va pas parce que il y a eu la même occasion avec Dreyer à la fin du match et tu vois qu'avec l'expérience, c'est vrai qu'il y avait le carton rouge avant, mais Dreyer il arrive au dernier moment, il s'efface parce que si tu percutes un attaquant, toi gardien en dehors de ta surface, t'es sûr qu'il y a rouge.
Même si c'est pas le dernier défenseur.
C'est difficile à savoir parce que le gardien c'est le dernier défenseur déjà.
Ah non, mais là il y a deux verts derrière lui.
Dans l'esprit du jeu. Le gardien est le dernier défenseur, donc si tu percutes un attaquant en tant que gardien, c'est sûr que c'est rouge. Enfin, je ne connais pas d'exemple où tu siffles pas rouge dans ces cas-là, à l'extérieur de la surface.
Bah, si,
c'est forcément rouge.
Bah, Schumacher.
Oui.
C'est la troisième fois, hein, rendez-vous compte, que Green se fait expulser, hein, chaque fois sur une sortie comme ça inconsidérée, à Monaco contre Le Havre et puis donc là, ça fait beaucoup, hein, pour un gardien...
Mais moi je trouve que le carton rouge et le fait de réduire l'équipe des Verts une fois de plus à 10 est un parti pris qui peut se discuter parce que il n'y a pas une grosse faute, loin de là. Il effleure, l'autre en rajoute, c'est assez impressionnant.
Il part en but, Marco. Il y a une grosse faute du carton rouge,
il
est mérité.
Il part en but, il y a Giraudon qui est juste derrière.
Oui, enfin, quand même. Il part lancer.
Il y a Giraudon qui est juste derrière et il y a un autre Stéphatois. C'est pour ça que je dis que c'est pas le dernier défenseur.
T'as raison dans le sens où s'il s'efface, s'il est un petit peu malin qu'il s'efface, il y a Giraudon qui récupère la balle. Mais si tu le percutes, l'arbitre peut pas savoir si. Exact, vraiment.
Comment ça, il peut pas savoir?
Selon la vitesse, l'attaquant étant lancé, peut-être il peut arriver avant le défenseur.
Moi, je vous trouve très, très indulgent là-dessus parce qu'on a eu des milliers de cas en notre défaveur sur la même situation où le gardien adverse n'avait pris qu'un jaune. Et je me souviens encore d'un derby avec un certain Alex qui allait tout de suite au but, qui a été plaqué. Et c'était le dernier défenseur et il avait pris qu'un jaune. Je ne sais plus quel défenseur lyonnais... Là.
Il y a 20 ans, Marco.
On parle du 20e siècle.
Non, mais c'est pour dire que la décision arbitrale change tout. Et une fois de plus, ça change la donne. Alors que Saint-Etienne menait au score. Voilà, j'ai tout dit.
Non, mais t'as raison sur le fait que peut-être Giraudon peut récupérer la balle.
Sinon, Marco, monsieur le Texier, contre le Havre.
Non. Faut pas le lancer sur le Texier. Et moi non plus, parce que là, pour le coup. Mais il y a dans l'arbitrage début de saison, c'est n'importe quoi. La commission des arbitres les a réunis, leur a donné des instructions qui les ont complètement mélangés, enfin, qui les ont rendus intransigeants. Mais du coup, c'est à l'inverse du jeu, ça va à l'encontre du jeu. Et du coup, ça donne des situations complètement stupides.
La première journée de championnat
absurde.
De Ligue 2 n'avait jamais connu ça, puisque sur les 10 rencontres, il y avait eu déjà 7 cartons rouges sortis lors de la première journée de Ligue 2.
Mais il y aura des erreurs d'arbitrage, il y en aura toujours. Par contre, sur ta question sur la stratégie, alors il faut quand même se rappeler que Batles a dit... On verra désormais, nous allons proposer moins de football et les spectateurs en verront beaucoup moins de football parce que il s'est pris non seulement la vague havraise et puis après il s'est pris la vague des supporters sur les réseaux sociaux. À l'entraînement, il a été obligé d'arrêter l'entraînement pour venir dire à un gars au bord du terrain arrête d'insulter mes joueurs. Donc ça, et donc forcément, malgré ce qu'il a dit, je trouve qu'on a on propose de pas si mal de choses. Et bon, contre Bastia, bon, le match a bien tourné, mais même là, avec rien qu'en titularisant les joueurs qu'il met au milieu, c'est-à-dire des petits gabarits rapides, je trouve que déjà il est dans le vrai, quoi. Même à l'extérieur, pour moi, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Saint-Etienne, hein, ça sera mon coup de cœur, cette arrivée de Batles, que je fais sa connaissance, parce que quand il était en réserve, je suivais ça de loin. À 3, j'aime pas ce club, donc j'ai jamais trop suivi ce qu'il foutait là-bas. En plus, maintenant que c'est avec Manchester City, je les aime encore moins. Mais là, depuis un mois et demi, je trouve que c'est une masterclass que fait Batles, aussi bien au niveau des médias, vis-à-vis des joueurs, et même sur le terrain. Alors ça se traduit pas en résultat, mais je trouve qu'on a une perle rare là. On a peut-être un entraîneur, tu vois, de la trempe d'entraîneur. Qui sont
oui, mais là tu
ouais, non, mais je
tu tires sur le
bien
sur
l'entraîneur,
sûr,
sur l'entraîneur, mais sur ce match là il faut bien se dire que en Ligue 2 aucun match ne sera facile. Bastia c'est un cas particulier, oui. Donc en fait, mais... qu'est-ce qu'il peut faire de mieux à part Bakayoko? Moi ça m'a surpris franchement qu'ils mettent Bakayoko en défense,
c'était le meilleur
à la place de Petro. Alors pour le coup je te fais confiance puisque tu étais dans le stade,
il était bon,
il a été rapide, et en plus la rentrée de Petro m'a pas du tout rassuré.
Et
il fait un sacré sauvetage en plus.
Bakayoko il sort et les Verts mènent toujours
1-0,
oui, hein. Bien sûr. On est d'accord. Oui, tu veux répondre sur le schéma? Parce que moi, j'ai, en posant la question, en fait, moi, j'ai pas une réponse, mais une proposition, quoi.
Laquelle?
Eh bien, quand tu as un bloc défensif, et depuis des années, on a du mal face à ces blocs défensifs, moi, je pense que proposer des ailiers, parce que là, on a simplement des pistons, Cafaro n'a pas été... ne s'est pas illustré. C'est pas le seul, hein. Mais... simplement, cette doublette Crasso-Cafaro n'a pas été concluante sur cette rencontre. Et face à un bloc comme celui-ci, passer par les côtés me semblait plutôt judicieux. Voilà. Et le pauvre Crasso, il a été quand même assez muselé, hein. Il y avait deux joueurs sur lui, c'était pas évident. Heureusement qu'il fait cette jolie talonnade. Et moi, je pensais que Batles allait changer son schéma face à ce bloc à un moment donné, et il ne l'a pas fait. Voilà. Mais c'est juste une proposition après avoir visionné cette rencontre-là. Moi, je pensais que face à des blocs défensifs, il faut trouver des solutions, et je n'ai pas vu d'évolution dans la tactique tout au long de la rencontre.
Après, c'est vrai que nos joueurs de ballon, on ne les a pas vus hier, hein, que ce soit Bouchouari, que ce soit Chambaud ou Cafaro, effectivement.
Il y a un élément, je pense que tu as dû le constater, c'est que chaque fois que les Verts vont se déplacer cette saison, l'équipe adverse, ça va être le match de gala de l'année, quoi.
Évidemment.
C'est-à-dire que les Palois, ils ont 2-3 rendez-vous dans l'année, et celui-ci en fait partie. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas descendre. On y est, mais ça veut dire qu'il va falloir être très au-dessus du niveau pour pouvoir faire face. Physiquement, le Dalmeida, là, moi, il m'a pas... À part physiquement, mais je suis persuadé que les autres matchs de la saison, il va pas faire ce match-là. Là, il savait qu'il y avait un public, donc ça l'a transcendé. Mais je suis pas sûr que ce soit un super joueur. Il a été énorme physiquement, au milieu du terrain, mais il a rien montré techniquement. Et par contre, il a fait le match de sa saison, quoi. Contre nous, bizarrement.
Mais ça, c'est sûr. De toute façon, partout où on va aller, on sera attendu. C'est comme... il y a 20 ans, lorsqu'on était descendu en Ligue 2, avec le public stéphanois qui est omniprésent, effectivement, c'est la rencontre à chaque fois. On est dans l'émission Rock and Foot, donc on va passer quand même des morceaux musicaux. Voici le premier groupe palois actuel, c'est L'Envoûtante. Si vous ne connaissez pas, chers auditeurs, je vous conseille fortement. Là, il sort son deuxième album. C'est Espoir Féroce, et justement le titre que je vais vous passer, c'est Espoir Féroce, donc l'espoir vert. Espérons. Allez, c'est parti pour L'Envoûtante.
Identité oxydée d'un enfant pourri gâté d'Occident. Encore des bouts du gâteau dans les dents. D'ici dur de jouer les dissidents. Les cadeaux que notre République nous tend. Ils puent la mort, mais on les prend. Et ça tue l'humanisme à bout portant. Mais y'a aucune justice qui nous attend au tournant. Et les retombées de budget florissant. Aéronautique et armement. Financement, statut d'intermittent. Toute naïveté a foutu le camp. Moi je déterre les rêves que ma vie caresse. Pour certains c'est la cinquième roue du carrosse. Mais j'enterre pas les rêves que la vie cabosse. J'en tire au contraire un espoir féroce. Et à fouiller les envers du décor, de nos petits conforts on retrouve des corps. Y'a du pétrole, du gaz, de l'or, dès lors que du sang. s'en sort du coffre-fort. C'est idem pour la fée électricité, uranium et pommerdier. Inhumanité dans les bassins miniers. Merde, je crois que j'ai grillé les nouveaux navires négriers. Arrivé à rêver la France des lumières, mais avec Areva qui pousse derrière. Quand un Touareg du désert touchera un euro du nucléaire, il aura neigé au Niger. Moi je déterre les rêves que ma vie caresse. C'est peut-être la cinquième roue du carrosse, mais j'enterre pas les rêves que la vie cabosse. J'en tire au contraire un espoir féroce. Et ma parole, on est plus con qu'avant. On a la vie plus douce que celle de nos parents, mais le confort nous coupe l'envie d'être indépendant. En deux temps et trois mouvements, faire pousser l'humanité, c'est chiant. On abandonne vite les semis et les plants. On retourne faire les courses chez Auchan. Et les champs libres, on les laisse en plan. Alors pourquoi se péter les reins pour pas un rond? Bah demande ça aux anciens, aux néo-ruraux, aux nègres marrons, les persévérants vous le diront. On devient pas un homme libre sans privation. Ouais, pourquoi se péter les reins pour pas un rond? Demande ça aux anciens, aux néo-ruraux, aux nègres marrons, les persévérants vous le diront. Y'a pas d'homme libre sans privation. Moi je déterre les rêves que la vie caresse. Pour certains c'est la cinquième roue du carrosse, mais j'enterre pas les rêves que la vie cabosse. J'en tire au contraire un espoir féroce.
L'envoûtante fait dans le rap énervé, qui ne regarde pas ses pompes et n'exhibe pas sa chaîne en or, m'écrit sa colère à qui veut bien l'entendre. Et ouais, ça a des sonorités de rock, mais sans guitare. Ça fait penser à Zone Libre ou Kazé, pour les connaisseurs de la musique indépendante. Retour dans notre émission Nouvelle Formule, puisque c'est le mardi soir, cher auditeur, 20h30, et on revient sur quand même cette septième journée de championnat avec ce match nul de but partout entre Pau et Saint-Étienne. Des questions, Eric?
Oui, mais moi j'ai évoqué tout à l'heure, donc je sais pas si vous pouvez répondre à celle-ci. Donc moi j'ai trouvé que première mi-temps, on avait quand même le contrôle du ballon. Alors, bon, les conditions étaient difficiles, il y avait une pelouse qui était assez catastrophique, faut le préciser quand même. Et puis en deuxième mi-temps, ça n'a pas été du tout la même chose. Hein, retour des vestiaires, on a vu les Palois prendre l'ascendant. Alors, je ne sais pas si vous partagez cet avis, comment vous expliquez cette baisse de régime en seconde période qui était assez criante, avant même l'expulsion du Green. Hein. Bon, ça s'est confirmé évidemment après, mais c'est plus du tout la même équipe en deuxième mi-temps, j'ai trouvé.
Ouais, dès le début, comme si on avait reculé d'un cran. Mmh. Alors, en ces cas-là, moi j'ai trouvé que le milieu de terrain, c'est le moteur, et il n'a pas réussi à ressortir les ballons, c'est-à-dire que à le mettre au sol et tout de suite trouver des solutions. Il y a ça, et il y a aussi un petit peu la passivité des attaquants, et dans le lot, je mettrai Crasso, parce que même s'il est génial depuis le début de la saison, c'est pas le gars qui t'offre 10 millions d'appels, quoi. De l'extérieur, peut-être tu vas me contredire et je te ferai confiance, mais je trouve qu'il offre pas beaucoup de solutions justement pour faire remonter le bloc équipe, c'est-à-dire donnez-moi la balle, je la garde 5-10 secondes, ça permet à toute l'équipe de monter. Ça, il n'y arrive pas, il faut qu'il progresse là-dessus, quoi.
Ah, il a une bonne protection de balle quand même.
Ah, ouais. Et puis il a décroché beaucoup plus, hein, à un moment donné. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, puisqu'effectivement il n'était pas servi. Mais ça rejoint ce que j'ai dit juste avant le titre musical, c'est que effectivement le milieu n'arrivait pas à trouver les attaquants. Après, les attaquants, il n'y en avait que deux. Et en plus, ils étaient au centre, ils étaient rarement sur les côtés. Il fallait attendre les pistons comme Masson et Palencia, qui n'était pas toujours disponible, en tout cas peut-être pas assez haut. C'est pour ça que, pour moi, j'aurais aimé un changement tactique à un moment donné par notre coach, quoi. Et je pense qu'on aurait pu poser plus de soucis à cette défense paloise qui était comme un bloc. Et ils nous ont infligé un bloc physique où effectivement notre milieu était en dessous. Pour moi, je l'explique comme ça.
L'expulsion, elle est à quelle minute, excuse-moi, à peu près? Parce qu'après, c'est vrai que
c'est plus
le même match. C'est-à-dire que voilà, la dernière demi-heure, c'est forcé. Tu es à l'extérieur, tu es à 10, c'est sûr que c'est difficile.
Donc, par rapport à ce que tu dis, le joueur que tu aurais voulu voir rentrer, c'est le profil de Pintor.
Un ailier, oui. Mmh. Oui, un ailier. Après, Pintor, jusqu'à maintenant, il n'a jamais su déborder. Mais effectivement, il faut un ailier à gauche, à droite. Après, voilà, je prends toujours la même chose. Je ne dis pas que ça aurait marché, mais au moins proposer quelque chose, puisqu'on prenait l'eau au milieu de terrain et qu'on était obligé de revenir.
Alors, il y a une chose qui a changé en la fin de match, c'est la rentrée de Wadji.
Ouais.
Parce que, franchement, pour le coup, on a vu la différence avec Crasso,
ouais.
Que ce soit dans le, on va dire, les appels de balles tranchants. Ça, Crasso, il a du mal aussi. Enfin, c'est pas le même gabarit, hein, mais forcément. Mais et puis aussi on va dire le fait de d'être dans les duels, d'être très 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 engagé. Il a livré des duels. D'ailleurs, il obtient un penalty là-dessus. C'est-à-dire que il est au combat, quoi, le Sénégalais. Hein.
Il est puissant, ouais.
Ouais.
Ouais, il m'a bien plu.
Ouais.
Moi aussi.
Il m'a bien plu dès son entame de match.
Alors, ça demande confirmation, hein, parce qu'il y a la jurisprudence, comment il s'appelait, Diousse, hein, qui nous avait fait un super match. Et puis derrière, il était sénégalais aussi, donc je me méfie toujours maintenant.
Comme Nice.
Mais donc, franchement, ouais, ça demande confirmation. Mais il serait peut-être rentré un peu avant, ça aurait pu changer encore la donne, parce qu'il obtient le pénalty, puis même il est dangereux à la fin de match.
Tout à fait.
Est-ce qu'il va pouvoir jouer avec Crasso? On l'espère, hein. Les deux sont intéressants.
J'espère.
Alors, c'est l'idée, je pense, parce que Crasso, là où il a été le meilleur, c'est quand il jouait à deux, paraît-il, à Épinal, avec un profil un petit peu comme Wadji, hein, quelqu'un qui va vite, qui gravite autour. Donc, à voir, hein. Il n'est pas forcément... son poste, c'est pas forcément dans la surface, voilà. Il aime bien décrocher et... Pourquoi pas, il faut qu'il ait quelqu'un à côté pour justement ouvrir quand même, parce qu'il ne peut pas être à décrocher et être à la finition. Donc je pense que l'idée du staff, c'est ça, c'est d'associer les deux. Et puis en plus, bon, Batles, il a plutôt une philosophie offensive, donc on peut penser que deux attaquants, ça ne lui fait pas peur.
Il y a du beau monde hein, maintenant.
Ouais, enfin du beau monde.
Offensivement, c'est pas mal. Hein.
Quand j'ai vu que c'était Pinter qui tirait, excuse-moi, mais j'ai eu peur, quoi.
Je pensais que c'était Wadji.
J'ai flippé parce que ouais. t'as un penalty important. Les cadres qui ont la trentaine, ils sont, j'ai envie de dire, ils sont passés où là?
Et puis il est pas bien tiré, hein, au final.
Non.
Il est pas bien tiré. Il est à mi-hauteur. Voilà. Ce qu'il faut absolument.
Je pensais que c'était Wadji, mais comme si la faute était commise sur lui, peut-être qu'il était convenu que.
Ouais, moi aussi, j'aurais préféré. Ouais. Tu fais tirer l'avant-centre.
Bah ouais, moi j'étais surpris que ça soit pas lui. Mais... Ouais.
Il a du cran, hein, on va pas lui enlever ça. Hein. Il a dû dire je prends ma responsabilité, j'y vais. Crasso était sorti. Bon, voilà. Bravo à lui. Moi j'ai eu peur pendant.
L'essentiel, c'est que ce soit au fond. Hein.
Ouais, exactement. Et ça, il sauve un point. Alors, soit dit en passant, les matchs nuls, ça fait pas. C'est pas ça qui fait avancer. Hein. Attends, c'est qui a 4 matchs nuls là Alors, c'est pas le classement, mais en Ligue 1, j'ai vu qu'il y a match nul, t'es dernier, quoi.
Ah bah,
on est dernier, de toute façon.
Ouais.
Avec Zeko.
C'est sûr, quand t'as la victoire à 3 points et match nul à 1 point,
après, c'est vrai qu'on
match nul, t'avances que dalle. Hein.
On attendait autre chose, on attendait une confirmation après le carton face à Bastia. Malheureusement, on l'a pas eu, cette confirmation. Donc, est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que c'est vraiment l'expulsion de Green qui change la donne?
Pour moi, c'est l'expulsion de Green. Hein.
Ouais, je sais pas quoi en penser encore de cette année. Je pense que il va pas falloir, il faut faire des séries de toute façon pour espérer remonter. Et vu l'adversité, j'ai bien peur quand même que cette année on va devoir une phase d'acclimatation à la Ligue 2. Je pense qu'elle va être nécessaire parce que on voit qu'en face c'est pas quand on voit Dijon, quand on a vu Le Havre.
En bas Dijon.
Oui.
On va Dijon.
Ben on n'a pas battu Dijon, on a 2-2. Bah on a fait 2-2, quoi. Et puis ça rentre.
Dijon, on a perdu.
T'as la dimension
Olivier,
physique.
On a perdu à
Olivier,
Dijon.
On a perdu.
Ah, pardon,
Dijon.
J'ai cru qu'on avait fait match nul, excuse-moi.
Ah, bah non, match nul contre Nîmes, match nul à Séville, match nul à Valenciennes.
Non, mais il y a des équipes qui sont très physiques. Il y a des équipes. Ça se livre pas beaucoup. Et puis il y a eu des recrutements, il y a des projets qui sont vraiment beaux à voir, hein, le même un peu que le nôtre. Hein. Tu prends Le Havre, Amiens, j'ai vu que il y a des jolis projets. Hein.
Dijon, on perd 2-1, je peux dire qu'on a frôlé la correctionnelle en deuxième mi-temps. S'il y a 3 ou 4-0, il n'y a rien à dire. Hein.
Ouais. Bah, je ne suis pas d'accord.
Dijon?
Non, je reviendrai dessus, je ne suis pas d'accord.
Ah, bah, dis donc.
Non.
En deuxième mi-temps? Il rate 2 buts immanquables.
Sur la rencontre en elle-même, oui. Ah, bah. À Dijon, oui.
C'est gentil. Hein.
Ouais.
Il y était, tu peux lui faire confiance quand même.
Il y a des vagues à Dijon, des vagues. D'ailleurs, c'est pour ça que Batles est revenu à son système de jeu. Il a commencé à 3 là-bas, on a pris l'autre toute part. Il est revenu à 4 derrière.
Tout à fait.
Avant de revenir maintenant à 3.
Mais ouais, 4, il est revenu à 4, il s'est rendu compte que ça n'a rien changé.
Moi, Giraudon, j'ai dit, Briançon, il finira pas le match. Finalement, c'est Bonga qui a été expulsé en fin de match. Mais Briançon, Giraudon, ils vont prendre des cartons cette année.
Ça sera mon
un peu capitaine.
T'as fini avec les questions, peut-être qu'on
il a posé une question là.
Excuse-moi.
T'as monopolisé.
Non, pardon. Alors, dis-moi. Hésite pas.
Donc, est-ce qu'on est inquiet? Non, moi je suis pas inquiet parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même de la qualité sur certains matchs et que je pense pas de toute façon qu'on va monter cette année. Donc, je me suis fait l'idée qu'on restera en Ligue 2. Pour la saison prochaine, encore faut-il se maintenir. Mais vu ce que j'ai vu sur 3-4 matchs, je suis plutôt optimiste en fin de compte dans le jeu. Par contre, moi, il y a quelque chose, et j'y reviendrai dans les coups de tête, qui me fait peur, c'est que depuis le début de championnat, c'est l'acharnement des décisions arbitrales qui est quand même assez criant de vérité. Et match après match, du premier match jusqu'à celui de la 7e journée, hein, face à Pau, il se passe quand même des choses qui ne sont pas justes pour nous, supporters verts. Et j'aimerais bien que ça change. Et ça me fait peur. Mais dans le jeu, non, je ne suis pas inquiet, Eric, pour répondre à ta question.
J'ai dit que j'étais inquiet, moi, parce que pas pour pas descendre, mais je suis inquiet de l'adversité, en fait. Je suis étonné, je découvre la Ligue 2 et franchement, ça va être la guerre, quoi, tous les week-ends.
En espérant qu'on y est préparé, mais bon. Un mot sur Etienne Green, quand même, parce que elle se pose la question Green inévitablement, donc. Depuis qu'il porte ce maillot vert, donc il a réalisé ce fameux exploit à Nîmes, hein, donc on l'a monté, ce jeune garçon, qui a un prénom et un nom prédestiné, évidemment. Donc, ensuite, il ne faut pas oublier qu'il a souvent été sauvé par ses poteaux. Hein. C'est un gardien qui avait la baraka. L'année dernière, il a connu la sombre période avec Claude Puel, avant d'être mis au banc au sens propre, comme au sens figuré, avec l'arrivée de Bernardoni suite à la nomination de Duprat. Là, il revient dans les cages, donc première expulsion face au HAC, et donc on a l'impression qu'il apprend pas trop de ses erreurs, donc nouvelle expulsion donc quasi identique, donc sur une sortie une nouvelle fois mal maîtrisée. Alors il va prendre sûrement encore 2 matchs de suspension, donc Dreyer va faire l'intérim, mais est-ce qu'après Dreyer ne va pas rester finalement dans la cage? Est-ce que Green retrouvera pour vous son poste numéro 1?
Pour moi, oui. Parce qu'il est meilleur, tout simplement. Il est meilleur que Dreyer. Dreyer, on le connaît depuis des années et des années. Il s'est illustré avec Lorient. Et c'est pas un super gardien. Hein. Et je pense qu'il a plus une marge de progression, notre portier vert. Et qu'il n'a pas toujours été aidé. Effectivement, il avait la baraka il y a un an et demi. Mais je pense que c'est notre meilleur gardien dans l'effectif stéphanois. Et tu vois, on a parlé tout à l'heure dans la première rencontre face à Dijon, sans Green, effectivement, oui, on peut en prendre 4, pas de souci. Hein. Donc il s'est illustré plusieurs fois à son avantage.
Dans l'esprit de Batles, je pense que la question se pose désormais. Hein. Il veut vraiment les mettre en concurrence.
Oui.
Ça va être un argument de plus.
Là, hein. La question était, il aurait pu laisser Dreyer, parce que finalement, il y a un super match.
Je pense qu'il s'est posé la question, hein, d'après ses déclarations.
À mon avis, quand même, quand ils ont fait venir Dreyer, à mon avis, dans l'esprit, c'était pas pour jouer en 1, c'était pour encadrer justement Green, un peu comme dans d'autres circonstances. Donc non, je vais pas prendre cet exemple-là, mais je pensais à l'Inter de Milan. Mais tu vois, pour encadrer un petit peu le jeune Green, avoir quelqu'un d'expérimenté. D'ailleurs, à un moment, on voit, il lui parlait au début du match. C'était pas l'entraîneur des gardiens qui parlait, c'était Dreyer qui parlait à Green, tout ça. Je pense qu'il a accepté, peut-être en plus qu'on lui a promis, d'enchaîner sur quelque chose au club. Mais en tout cas, je pense que dans le contrat et dans ce qui a été dit par Batles, à mon avis, il y a Green en 1 et Dreyer en 2 qui est là pour encadrer. Voilà. Et après tu parles de Duprat, il n'a pas fait grand-chose de bien, Duprat, mais il y a une chose qu'il a réussi, c'est mettre Bernardoni à la place de Green. Hein. C'est ce qui nous a permis de presque se sauver, pour moi. Donc, mais là, Dreyer, ce n'est pas du tout du niveau de Bernardoni, donc voilà. C'est ça le problème. Donc non, Green c'est bien. Green, il va revenir. À part s'il prend, à chaque fois qu'il joue, il prend un rouge. Hein. Oui.
Bon. Je suis d'accord qu'il a fait des arrêts précieux, mais là, il pénalise l'équipe. Hein.
Green voit rouge. Mm. Bon, c'est bon pour réponse aux questions. Mm-hmm. On passe une courte page Haute-Loire avant d'annoncer l'agenda. Ça vous convient? Allez,
c'est parti. Il n'y a pas grand-chose.
Si.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire.
Alors, la page Haute-Loire, voilà, pour moi, elle est courte, mais je donnerai la parole à Marco après parce que le championnat de régional n'a pas encore commencé. Parce qu'on va pas pouvoir développer les résultats de R1, R2, R3. Mais par contre.
R3, on n'a jamais fait, Olivier. Hein.
Ouais, alors on pourrait. Hein, moi, je m'apprêtais à le faire puisque tu m'avais donné la lourde responsabilité de m'occuper de la page Haute-Loire. J'espère que j'aurais eu un peu de liberté quand même.
Jusqu'à recharge.
non, pas jusqu'à recharge. Mais par contre, voilà, donc on va commencer par l'équipe phare du département, surtout que cette année, elle est remontée en national. Donc on y était avec Eric, c'était vendredi soir du côté du stade Massot, où ils accueillaient donc un candidat à la montée qui s'appelle Châteauroux. Alors je dis un candidat à la montée, oui, parce qu'ils ont fait un recrutement XXL, hein, avec notamment Nolan Roux, mais aussi des anciens internationaux sénégalais. Je pense à Mbengue sur le côté. Donc voilà, ils avaient fort à faire. Mais c'est un championnat difficile. Et puis surtout, il faut souligner d'ores et déjà qu'il y a six clubs qui descendent de national. Je ne sais pas si vous imaginez, ça va être un carnage. 6 clubs sur 18 en plus. Donc chaud les marrons pour le Puy-Foot. Donc qui a entamé son match. Alors moi, je suis pas très familier du championnat national, mais franchement, la première mi-temps a été soporifique. Mais vraiment, j'ai rarement vu deux équipes qui bétonnaient comme ça, quoi. Mais il n'y en a pas une qui s'est livrée, ils attaquaient à trois, quoi. Le milieu de terrain essayait, mais chaque équipe a été attaquée à trois en espérant avoir un coup de pied arrêté et marqué à trois joueurs, ouais. Et du coup, je me suis dit, mais si ça bétonne comme ça en national, le public n'est pas prêt de revenir à Massot. Donc, manque d'audace de la part du Puy. La seule audace, elle a eu lieu quand même à l'heure de jeu, pratiquement, puisque c'est un super débordement de Elogo sur le côté gauche qui a permis au Puy Foot d'ouvrir la marque par Dadoun, hein, l'attaquant du Puy. Donc 1-0, on se dit que c'est bien parti. Mais là, alors là, pour le coup, c'est là qu'on voit que Châteauroux en avait gardé sous la semelle, parce que dès l'ouverture du score du Puy, on a vu des vagues de Châteauroux déferler sur les cages Ponote. Ça n'a pas mis longtemps. Ils ont égalisé tout de suite et ils ont, par l'intermédiaire d'un très bon joueur qui s'appelle Grange, et un deuxième dans la foulée, enfin à la fin du match, sur penalty. À la 83e, donc le Puy n'a pas réussi à tenir le score, mais franchement, il y avait très difficile de contrecarrer cette équipe de Châteauroux une fois qu'elle a été menée. Donc c'est là qu'on voit quand même qu'elle est un cran au-dessus, cette équipe de Châteauroux, et ça va être difficile s'il n'y a que des équipes comme ça. Heureusement, il n'y aura pas que des équipes comme Châteauroux. Donc défaite 2-1 pour le Puy. On rappelle qu'ils ont fait un début de championnat poussif, puisqu'ils se sont fait rattraper souvent dans les dernières minutes du match, et ils occupent la 15e place avec seulement 3 points et un goal average de moins 2. Donc voilà, ils font partie pour l'instant des 6 équipes qui risquent de descendre.
Une victoire, 3 défaites.
Exactement. Et puis un petit mot sur la Coupe de France, puisque c'est les premiers tours en Haute-Loire. Moi j'aime bien ces rencontres. Et puis, donc pour dire que je ne vais pas donner tous les scores, mais deux belles performances. Le Haut-Lignon, qui est en D2, a battu Vergongeon, qui est lui en régional. Voilà. Donc, une très belle performance. C'était déjà le cas au tour d'avant. Haut-Lignon s'était illustré en éliminant un gros, entre guillemets. Ils avaient été éliminés la CEOV au tour précédent. Donc, je pense que c'est l'entente Le Mazet et le Chambon. Donc beau résultat. Et le deuxième beau résultat, c'est Retourna qui s'est fait éliminer par Grazaklapt qui est en D1. Donc eux aussi GG à eux parce qu'ils sont ils se sont illustrés dans ce championnat, dans cette Coupe de France. Alors je le disais, pas de championnat de régional.
Bah si, je vais en parler.
Oui, juste dire que le championnat commence le week-end du 17 et 18 septembre. Donc c'est pas ce week-end, c'est le suivant, avec nos équipes habituelles. Hein, ça a pas bien changé. En R1, c'est Espaly, Velay FC, Blavozy et Le Puy. 2. En R2, c'est Brioude. Dis-moi si j'ai oublié un club. Hein. Brioude, Vergongeon, Brive, Voray, Suquet-Lignon et Monistrol en R2. On les suivra cette saison pour exactement vous donner les scores.
Alors, il faut savoir que dans ceux qui viennent d'être énoncés, il y a Brioude et Vergongeon dans la même poule, la poule A et la poule B. Il y a Voray, Brive-Charensac, l'USSL et Monistrol. Voilà, donc la poule B est plus intéressante et plus proche de chez nous, on va dire. Et en R1, c'est Espaly qui est le seul club alti-ligérien dans la poule A, et en poule B, c'est Velay FC, Blavozy et la réserve du Puy. Il n'y a pas de représentant en National 3, il faut le souligner. Merci pour la page Haute-Loire. Je voulais juste dire une dernière chose, c'est que les Pono se déplacent ce vendredi en Bretagne face au stade Briochin, hein, c'est Saint-Brieuc, le vendredi à 19h30. Et moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que les matchs de National sont diffusés sur la FFF?
Oui.
Voilà. Donc, pour les auditeurs, c'est le top, ça.
Vous allez sur fff.fr et il y a un onglet National. Enfin, on trouve. C'est YouTube, en fait. Hein, et, ouais. Il y a tous les matchs sur YouTube et en direct.
Ça, c'est important.
C'est un horaire un peu bizarre, hein, 19h30. Tout à vendredi.
Fait. Tout à fait. Les horaires bizarres. En Ligue 2 aussi, on connaît. Très bien, on va tout de suite passer par l'agenda.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
Alors, retour avec l'actualité des Verts. Les Verts vont recevoir le leader de ce championnat de Ligue 2. Ce match se déroulera à huis clos, une fois de plus, et le match aura lieu à 15h. 15h, qui dit 15h, dit retransmission sur beIN Sport. Il faut savoir que Bordeaux est bien leader avec 14 points. Ils n'ont connu qu'une seule défaite, hein. Ils ont encaissé que 2 buts. C'est la meilleure défense de ce début de championnat de Ligue 2, et il y a un des Bordelais qui surnage, c'est Madja qui a encore marqué 3 buts ce week-end. Voilà, concernant ce rendez-vous si important, et c'est un sacré test, puisque après avoir joué quand même des clubs qui sont, on va dire, ces dernières, comme Bastia qui est plutôt milieu de tableau, Pau qui est dernier. Là, on va se confronter face à un gros de ce championnat de Ligue 2. Et puis ça tourne, ça joue. C'est des jeunes en face, hein, des jeunes bordelais, puisqu'ils ont beaucoup aussi, comme nous, comment dire, élagué l'effectif.
Ah, ils ont gardé
Girondin.
Quand même quelques bons joueurs, hein.
Enfin,
Greg Arsène et l'ailier aussi, tu sais.
Oui, mais composé quand même majoritairement de.
Ouais, t'as raison. T'as raison. Ça n'a ni rien y comprendre parce que vu la situation extrasportive dans laquelle ils sont.
Donc un club comme Bordeaux qui avait été annoncé relégué en National, voilà, se retrouve leader. Le gros couac, bah, c'est que il y aura pas de public à Geoffroy Guichard. Et qu'il va falloir faire la différence et montrer les crocs pour remporter les 3 points. Après, moi, je me fais moins de soucis parce que Bordeaux est une équipe joueuse comme certaines, et c'est, je pense, plus facile face à des équipes joueuses pour développer un certain football comme on l'a vu contre Bastia. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce rendez-vous ?
Non, après avoir joué contre ce dernier, on joue contre le premier, effectivement. Faut pas, nous, on a la pire défense de Ligue 2, on a la meilleure attaque, paradoxalement, ex aequo avec d'autres équipes. Donc, je pense aussi, comme toi, que ça va être un match relativement plaisant, assez ouvert, donc, face à une équipe qui joue au ballon. Et juste, donc Green, forcément, est suspendu, évidemment. Il y a Palencia qui a pris un carton hier, donc qui sera suspendu pour le déplacement à Guingamp. Et donc, là, il y a 6 joueurs qui sont sous la menace d'une suspension, donc attention à eux. C'est Bakayoko, Bouchouari, Giraudon, Masson, Mouton et Pintor. Donc, s'ils prennent un nouveau carton contre Bordeaux, ils rateront la réception de Grenoble.
Hier, ils ont pris 6 cartons, les Verts. C'est 6 cartons, mais c'est complètement fou. C'était pas un match si accroché, si physique que ça. Ils ont pris 6 cartons. Moi, je trouve ça aberrant. Bon, on va passer à un deuxième titre musical d'un autre groupe palois. C'est Magnetics avec le titre Mort Clinique. C'est parti. Magnetics, l'excellent groupe palois exilé à Bordeaux qui a signé sur Bon Bad Records, le meilleur label qui existe en France, je le répète à chaque émission coup de tête. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. On va tout de suite passer à l'essentiel de cette émission, c'est les coups de cœur et les coups de tête.
Vous écoutez l'émission Coup de tête, voici les coups de cœur.
Alors, coup de cœur pour la nomination de Laurent Batless comme coach, que j'appelais de mes voeux. Coup de cœur pour la venue de vrais joueurs de ballon, comme Bouchouari, Chambaud, Cafaro, Lobry, pour les belles séquences de jeu également qu'on a pu entrevoir, et les jolis buts qu'on a inscrits, avec évidemment une mention toute particulière pour Crasso, qui a réalisé un exploit individuel à Quevilly, à Valenciennes, avant de réaliser un quadruplé face à Bastia, le premier depuis celui mythique d'Alex face à l'OM en 99. Coup de cœur pour les affluences enregistrées à l'extérieur, qui montrent que les Verts font toujours recette. Et enfin, un dernier coup de cœur personnel pour notre ancien entraîneur Christophe Galtier, qui poursuit sa formidable trajectoire qui lui vaut aujourd'hui de diriger au PSG Messi, Neymar, Mbappé et les meilleurs joueurs au monde. Donc bravo à lui.
Alors coup de cœur pour Wadji, le nouveau joueur sénégalais. Alors je dis qu'il est sénégalais parce que j'ai bien aimé aussi sa phrase. C'est un honneur pour tout sénégalais de jouer à l'AS Saint-Etienne. Voilà, c'est bien, il n'y a qu'un Africain pour dire ça. Et il l'a dit. Et puis Fofana, alors je ne sais pas s'il est d'origine sénégalaise, mais en tout cas le Wesley, ça fait longtemps que je vous en parle, je vous ai saoulé avec ça, mais il va rapporter la coquette somme, presque 10 millions d'euros à l'AS Saint-Etienne grâce à sa revente à Chelsea de la part de Leicester.
Je pensais que tu allais rajouter également Léo Petro, parce que tu souhaitais son retour, je me souviens, lors des émissions précédentes.
Léo Petro, ça fait longtemps, mais j'ai vu, je sais pas ce qu'ils ont fait de lui à Lorient, mais déjà, on va lui apprendre à tenir le mur et à pas montrer ses fesses sur un mur. Moi, j'ai jamais fait ça, même en district, et lui, il a peur de quoi? Il a peur du ballon? T'en déconnes.
Pour mes coups de cœur, je rejoins Eric puisque j'avais choisi Bouchoirie et le parquage vert. Allez, je fais vite pour l'essentiel, c'est-à-dire les coups de tête.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Alors, pas mal de coups de tête, évidemment. Donc, pour les sanctions très lourdes et collectives ont prononcé à l'encontre de l'ASS suite au débordement post-descente. Pour le retrait de points qui pénalise fortement l'équipe, les 4 huis clos qui sanctionnent sans raison une bonne partie du peuple vert qui nous prive de matchs contre des clubs historiques comme Bastia et Bordeaux ce week-end. Pour le début de saison cauchemardesque, les 6 cartons rouges et les 6 buts encaissés face au Havre qui ont conduit à la plus lourde défaite à domicile de l'histoire. Et un dernier coup de tête qui me tient à cœur, j'ai suivi l'intégralité des matchs de préparation de l'ASS cet été. Je dois dire que j'étais très désagréablement surpris de voir à quel point le club se coupait de son public. Quel intérêt de venir jouer au Puy, au Chambon, si les supporters ne peuvent pas du tout approcher les joueurs. Pas de photos, pas d'autographes, j'ai vu des enfants tendre des dessins aux joueurs et leur expliquer qu'ils n'avaient pas le droit de les toucher. Le club du Puy qui avait préparé des paniers de repas pour l'équipe qu'elle n'a pas non plus daigné emporter. Alors, lors des rares séances d'entraînement qui ensuite ont été ouvertes au public, on pouvait lire à chaque fois sur le site officiel le communiqué suivant. Le club précise que compte tenu du contexte sanitaire et de la nécessité de respecter les gestes barrières, les dédicaces et les selfies ne seront pas autorisées. Alors je trouve que la Covid à bon dos a longtemps été un prétexte pour éloigner les supporters. Alors aujourd'hui que la situation, on va dire, est revenue à la normale, cet argument ne tient plus. Partout, les joueurs sont disponibles pour leurs supporters, sauf à Saint-Etienne. Je trouve ça inadmissible. On est en Ligue 2, on est dernier. Il est grand temps que certains cessent de faire du zèle et laissent les joueurs qui ne demandent que ça de retrouver leur public.
Pour les coups de tête, c'est le recrutement en défense. Je trouve que... Alors,
Léo Petro.
Ouais, bah voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Et je trouve que... Alors, il fallait faire quelque chose, hein, parce qu'on avait une défense traumatisée. Je fais vite, Marco. Mais Giraudon, pour moi, il est pas assez, on va dire, au marquage. Il y a pas assez d'impact. Pour moi, c'est pas un vrai défenseur. Et à l'inverse... Donc, Briançon, il met trop d'engagement. Et puis, entre. Parce que Bakayoko, on le connaît, hein, il avait du mal à finir les matchs, il prend des cartons. Et on va voir si Léo Petro arrive à se mettre au diapason. Pour l'instant, j'ai des doutes. C'était le chantier numéro 1. Et le seul en qui j'ai confiance, c'est Briançon, mais il est capitaine, mais il faut qu'il se calme, quoi.
Ok, pour mes coups de tête, les 15 buts encaissés depuis ce début de championnat, ça fait quand même beaucoup. Je n'apprécie pas du tout les horaires de match dans ce nouveau championnat. Déjà en Ligue 1, c'était costaud, mais le dimanche, il n'y en a pas. Et 15h, 19h, c'est ça, le samedi. Les matchs le lundi, les matchs le mardi, les matchs le vendredi, c'est vraiment n'importe quoi. En tant qu'abonné COP Sud, je suis privé de Geoffroy Guichard jusqu'au 12 novembre. Je trouve ça inacceptable. Moi, j'ai absolument rien fait. Et ma passion, c'est la SSE et je ne peux pas me rendre au stade. Ça aussi, on pourra débattre comme on l'a débattu les années précédentes, mais il y a un truc qui ne convient pas. Mais surtout, mon gros coup de tête en ce début de championnat, c'est l'arbitrage depuis le début de championnat avec le nombre de cartons rouges à chaque fois. Et ce que ça induit, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une réaction de la part de notre hiérarchie, hein, des présidents, alors qu'on se fait piétiner, comme le match gagné par le Texier face au Havre. J'ai regardé absolument toutes les rencontres depuis le début. Toutes les décisions arbitrales sont absolument honteuses. De Dijon, de Quevilly, du match de Valenciennes... Si vous regardez tous ces matchs et vous montrez ça à un passionné de foot, vous hallucinez complet. Et vous dites, mais en fin de compte, c'est le VAR qui ne supporte pas ou... Donc, quand on aura des arbitres qui ont un comportement impartial, peut-être là, ça changera la donne. Déjà qu'on a 3 points de retard, et si ce n'est peut-être 6. Mais ce genre de position, c'est quand même très injuste et ça peut amener que de la violence. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et la goutte de trop, c'est ce match face au Havre où il y a un attentat sur Camara, qui était encore chez nous, qui est devant les arbitres et il ne donne même pas faute pour nous. Ça veut absolument tout dire. Et sur le match, le dernier match qui a lieu à Pau, sur les 30 dernières minutes, les Palois, ils cherchaient simplement à tomber et deux fois, ça s'est joué. Ils faisaient que tomber, donc ils simulaient dans la surface de réparation ouvertement et aux yeux de l'arbitre. Et l'arbitre ne sanctionne pas cette simulation, cette simulation-là. Et je vais venir sur deux anecdotes. Sur le match de face à Pau, à un moment donné, je ne sais plus c'est qui c'est Masson, je pense, qui prend un carton jaune parce qu'il y a eu la délation des joueurs palois, alors que l'arbitre n'a pas pu voir la faute et que ce n'est pas les arbitres de touche qui l'ont signalé. C'est simplement, il ne l'a pas vu.
Je ne crois pas qu'il a l'oreillette.
Il le sanctionne. Et sur le match face à Bastia, il y a une faute énorme du défenseur corse, je ne sais plus lequel, qui met un gros coup de coude, qu'on a vu bien sûr à la télé, qui n'a pas été vu par les arbitres. Ça, c'est, l'arbitre central, encore, il ne peut pas avoir les yeux partout, mais les arbitres de touche, ils sont là, et il n'a récolté rien du tout. Donc on se fait marcher dessus, on se fait piétiner un match sur deux, et en plus de ça, il n'y a personne qui réagit. En fin de compte, le plus grand visionnaire qu'on a eu ces derniers mois, c'est Bouanga, qui a dit simplement « Monsieur l'arbitre, vous êtes nul. Moi, j'applaudis dès demain. » Effectivement, ils sont complètement à la rue. Le premier but qu'on encaisse à Dijon, je rappelle, ça vient d'une touche qui n'aurait jamais dû être dijonnaise. Le deuxième but est entaché quand même d'un léger hors-jeu. Il y a des choses comme ça. Et on peut, en fin de compte, sur toutes les rencontres, à Quevilly, le carton rouge pris en fin de match change quand même complètement la donne. À Valenciennes, les 20 dernières minutes, c'est absolument honteux d'être acculé avec les décisions des coups francs successifs sifflés par l'arbitre, alors que les mêmes fautes, je dis bien exactement les mêmes fautes, ne me sont pas signalées en faveur des Verts. À un moment donné, il faut réagir. Et la réaction, moi j'aurais été Batless, j'aurais été dirigeant, le match face au Havre, je dis simplement à la mi-temps, les gars, on a déjà moins 3 points, eh bien on va en perdre peut-être 10 de plus, mais on rentre au vestiaire. Ça suffit d'avoir des arbitres qui ont déjà un parti pris et qui nous sanctionnent à chaque fois. Voilà, ça c'était mon dernier coup de gueule, coup de tête.
Je peux apporter une toute petite pas controverse, parce que je suis d'accord sur le Havre, je suis entièrement d'accord. Après, peut-être dire, j'y pensais en t'écoutant, que je sais pas, l'arbitre il prend combien de décisions concernant chaque équipe par match, à peu près peut-être 200, je sais pas, ça doit tourner autour de 200-250. Donc évidemment que sur 250 décisions, il y en aura forcément qui seront fausses. Et on va toujours trouver que ces fautes-là, ces erreurs d'arbitrage qui ont... Voilà. Mais par contre, sur le Havre, tu as raison, le Texier, de toute façon, j'espère que quand il y aura le public et qu'il va revenir à Geoffroy Guichard, on va lui faire un bel accueil. Et quitte à parler de sa maman, s'il faut, mais, mais il faut qu'il l'entende.
C'est coup de tête, pas mort l'arbitre. Trompette Film.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc le mardi soir, mardi prochain, 20h30, pour analyser cette rencontre Saint-Étienne-Bordeaux qui a lieu ce samedi à 15h à Geoffroy Guichard. Mais malheureusement, on ne peut pas y aller. Huis clos. Allez, bis à l'œil. À très bientôt sur les ondes de FM 43. Ciao.
À bientôt, allez les verts.
Et allez les verts.
Ciao, ciao.